sensibiliser, informer. Bienvenue à l'Académie. Le podcast que vous écoutez a été réalisé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Bonne écoute.
On accueille aujourd'hui 4 intervenants, à la fois représentants donc, de l'ADEME et voilà, des acteurs qui travaillent avec l'ADEME, et puis beaucoup surtout de représentants dans les territoires qui viendront nous présenter les solutions d'écologie industrielle territoriale qu'ils déploient dans leurs territoires respectifs. Voilà, mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Benoît Duré, qui est l'animateur du réseau Synapse et qui va nous faire une introduction plus générale sur ce qu'est l'écologie industrielle territoriale, comment elle se met en place, et puis ensuite on prendra des cas concrets. Voilà, Benoît, si tu nous entends, la parole est à toi.
Bonjour à tous. Je suis Benoît Duré, j'ai une activité de conseil sur les sujets de la gestion sobre des ressources à l'échelle territoriale et je suis animateur du réseau des acteurs de l'écologie industrielle et territoriale et c'est à ce titre que j'interviens dans le cadre de ce webinaire. Je suis ravi d'être parmi vous et j'ai donc en premier lieu la charge de vous apporter une définition un peu large de l'écologie cadrée. L'exercice de ce webinaire. Dans un premier temps, sachez que alors, l'écologie industrielle et territoriale est une terminologie dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. Il y a des termes qui peuvent paraître paradoxaux comme écologie et industrielle. Il n'empêche que c'est un champ scientifique qui s'est formalisé au début des années 90, d'abord aux États-Unis, puis qui s'est étendu ensuite en Europe et en Asie. Et qui a formalisé une approche dite écosystémique, c'est-à-dire qui considère le fonctionnement des territoires à l'instar des écosystèmes naturels, c'est-à-dire en quasi boucle fermée avec une simple approche d'énergie solaire. Et à ce titre, les acteurs d'un territoire, ils sont très variés, les entreprises, évidemment, en premier lieu, les collectivités, les associations, les laboratoires de recherche, les hôpitaux, vont chercher à optimiser l'utilisation des ressources sur un territoire en vue de faire des économies de ressources et d'une part et de diminuer les impacts sur les écosystèmes, notamment à travers des approches coopératives. Alors, de ce point de vue, les deux principes de l'écologie industrielle et territoriale sont d'une part la comptabilité des flux de matière et d'énergie. En gros, on va compter en tonnes, en joules et en mètres cubes ce que l'on compte habituellement en euros. Vous avez à l'image un exemple de bilan matière, de bilan ressources, comme on appelle ça, pour une entreprise qui va en entrée voir des consommations de matières premières, d'eau, de services, d'utilités, également de compétences, avec une certaine origine géographique, et puis en sortie des produits finis, semi-finis, des services, mais également des externalités telles que des effluents, des déchets, et d'autres coproduits qui ne lui sont pas forcément utiles dans son activité et qui ont une certaine destination. Donc ça, c'est le premier principe. On va essayer de comptabiliser au maximum avec des données qui émanent notamment des entreprises, mais il peut y avoir aussi certaines bases de données statistiques qui sont utilisées. Et puis d'autre part, un peu le cœur du système, c'est le développement des réseaux dits territorialisés de coopération, c'est-à-dire que l'ensemble de ces acteurs vont être invités à coopérer ensemble, donc à augmenter leur densité de relations les uns avec les autres et dont l'objet de leurs échanges, c'est les ressources en question dont je viens de vous parler. Alors, dans la diapo suivante, vous avez une petite explication en vidéo que vous pourrez revenir, sur laquelle vous pourrez cliquer sur la première diapo en bas à droite, qui est une vidéo qui a été produite par l'ADEME et qui fait encore un peu référence pour expliquer simplement ce qu'est l'écologie industrielle et territoriale. Sur la diapo suivante, je vous donne des exemples de ce qu'on appelle, nous, des synergies inter-entreprises. On va s'attacher à la cible entreprise avec vous. Mais globalement, pour les acteurs d'un territoire, fonctionner comme un écosystème naturel, ça veut dire entrer en symbiose, créer des synergies les uns avec les autres. Et dans une démarche de IT, on peut créer des synergies de 4 grands types, des synergies de substitution, des synergies de mutualisation de ressources, des mutualisations de services ou des nouvelles activités. Vous avez sur la droite des exemples de mutualisation. Alors, substitution de ressources, c'est typiquement, on va remplacer une matière première par le déchet émanant d'une autre entreprise. Ça peut être le cas avec du plastique, avec d'autres types de matières, par exemple de la boîte de cellulose qu'on peut fabriquer avec de la glassine, ce papier qui est un déchet issu de l'étiquetage, ou de carton usagé, par exemple. On va utiliser de la chaleur fatale pour chauffer des bureaux ou préchauffer un procédé industriel. Voilà, la mutualisation de ressources, on va acheter en commun, par exemple, un certain nombre de ressources ou d'équipements, comme des espaces de stockage ou encore des machines roulantes. Il y a beaucoup de synergies qui sont autour de la mutualisation de services, d'achats groupés, par exemple. Ça peut être aussi de la collecte de déchets mutualisés qui permet une massification de flux qui serait plutôt diffus et qui permet de créer une filière locale, par exemple, de valorisation pour un certain type de déchets qui n'existait pas auparavant. Et puis, en fait, enfin aussi, la création de nouvelles activités, alors dites innovantes parce qu'elles occupent une niche qui n'était pas là précédemment, mais à l'interface de nouvelles activités, de certaines activités, dans les échanges de flux, on va pouvoir créer des nouvelles activités qui souvent peuvent être portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense par exemple à la fabrication de produits de calage avec du carton usagé, par exemple, où les détenteurs de carton font un tri spécifique pour permettre à cette entreprise de collecter un matériau de bonne qualité qui va produire des matériaux de calage en remplacement du polystyrène qu'on réachetait soit les mêmes entreprises, soit des entreprises de la logistique. Voilà globalement pour les synergies. Leurs grands bénéfices. Évidemment, les entreprises s'y retrouvent en mettant en œuvre des synergies. Et l'une des premières synergies qu'elles avancent en termes de résultats, c'est que assez récemment, vous savez que la réglementation autour de la responsabilité sociale des entreprises et la nouvelle loi CSRD oblige les entreprises, maintenant toutes les entreprises, à produire des éléments extra-financiers, eh bien l'écologie industrielle et territoriale, à travers ses réseaux de coopération et ses optimisations de ressources, il apporte une réponse directe et très opérationnelle. On peut cliquer au fur et à mesure, Sébastien. L'écologie industrielle vient apporter et créer des nouvelles coopérations avec les entreprises de son territoire. Donc, on densifie son réseau et par là même, par la multiplication des rencontres avec des entreprises qui ne sont pas des fournisseurs, des clients, qui ne font pas partie de son écosystème naturel, spontané, on va dire, va permettre d'ouvrir son réseau et pourquoi pas d'identifier des nouvelles opportunités d'affaires. Évidemment, c'est des économies de ressources et de coûts de gestion de déchets qui sont immédiats puisque on fait des économies d'échelle et on peut arriver à négocier aussi certains prix. Par exemple, sur la mutualisation d'achat d'énergie, on va pouvoir passer à l'achat d'énergie renouvelable ou de l'autoproduction dans une démarche collective qui va être accompagnée par un acteur extérieur. Je vous donnerai tout à l'heure de la méthodologie, évidemment. Là, je continue à passer en revue les éléments, on va dire, d'apport. L'ancrage territorial est souvent mis en avant par les entreprises qui sont implantées, voilà, sur un territoire et qui voient d'un bon œil les partenariats, les nouveaux partenariats qu'ils peuvent avoir, soit avec d'autres acteurs, comme je vous en parlais tout à l'heure, ou carrément avec les acteurs publics qui sont porteurs de ces politiques de développement économique. C'est aussi une capacité d'adaptation économique face à certaines contraintes sur les ressources, des capacités de sécurisation d'approvisionnement sur des fois des marchés un peu tendus. Enfin, on connaît que la ressource en eau, les métaux, sur certains métaux, les marchés sont fluctuants et puis il peut y avoir certaines pénuries à venir dans les 10-15 années à venir, certaines plus proches que d'autres, hein, en fonction des ressources. Donc là, on peut anticiper un certain nombre de choses, notamment avec ce type de démarche, en fonction de l'implication que l'on a. Les créations d'emplois et de nouvelles activités, et puis une meilleure anticipation des évolutions réglementaires, notamment sur le domaine environnemental. Sur la diapo suivante, je vous livre un graphique qui a été produit par le réseau Synapse et qui est l'évolution dans le temps du nombre de démarches d'écologie industrielle et territoriale qui sont actives et formalisées en France. Elles sont en constante augmentation. Il y a une petite baisse là sur 2023, non pas parce qu'il y a moins de démarches, mais parce qu'il y a une révision de la méthode et qu'on a fusionné un certain nombre de démarches. Aujourd'hui, elles sont en augmentation. Le recensement est en cours pour 2024 et je peux vous confirmer qu'il y a encore un nombre de démarches qui augmentent en France. Sur la diapo suivante, vous avez, et ce sera la dernière de cette introduction, une carte interactive à laquelle vous pouvez avoir accès directement. Elle est publique, elle est abritée par le réseau, la plateforme numérique du réseau Synapse, et qui recense l'ensemble de manière géographique et définie par des périmètres géographiques, l'ensemble des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Vous avez des filtres qui vous permettent d'accéder à votre région directement, soit aussi par le type de structure qui porte la démarche, qu'elle soit une collectivité, une association, parfois une chambre de commerce, une société d'aménagement sur une zone d'activité, et également par son statut. Il y en a quatre, soit elle est active, soit elle est en réflexion, soit elle est suspendue ou parfois abandonnée. Il y a un code couleur qui est attenant à chaque statut, mais cette carte, on vous la présente pour vous montrer déjà l'occupation un peu territoriale. Bon, les démarches actives sont en bleu, l'occupation territoriale des démarches en France, et puis surtout vous donner l'information. Vous avez un outil avec cette carte qui vous permet de détecter des synergies qui sont autour des activités d'écologie industrielle qui sont autour de vous et que vous pourriez soit rejoindre, soit solliciter pour y entrer, ou soit, si vous êtes dans une zone blanche, pourquoi pas en impulser. Ça, on pourra en reparler dans la deuxième partie et sur la fin du webinaire pour vis-à-vis du rôle notamment des MEDEF territoriaux. Sébastien, je te laisse soit enchaîner, soit.
On va passer la
Parfait.
parole à Franck Elias qui va nous parler d'écologie industrielle territoriale du côté de Dunkerque et de la Côte d'Opale et on reviendra avec les autres exemples une fois qu'on a trouvé les solutions techniques à notre problème. Voilà, Franck,
Très
je te laisse la
bien.
parole.
Ben merci Sébastien. Donc j'ai l'honneur de passer devant Épinal et Bordeaux. Donc c'était prévu de passer enfin. Donc je vais essayer d'illustrer le propos précédent avec en effet une illustration par rapport à ce que nous on voit sur la Côte d'Opale. Alors déjà un peu de géographie. C'est quoi la Côte d'Opale? Donc pour résumer, c'est le littoral du Nord et le littoral du Pas-de-Calais. Donc slide suivante peut-être Sébastien. Donc nous sommes situés sur les bords de la mer du Nord et de la Manche, en face de l'Angleterre et au nord de la côte Picarde. Donc on a trois grandes villes, Boulogne-sur-Mer, Calais et Dunkerque. Donc on va parler précisément de l'exemple dunkerquois. Alors Dunkerque, c'est quoi? Une grande plage, 3 mois de saison carnavalesque en début d'année, et puis un certain nombre de choses au niveau de l'activité industrielle ou portuaire énergétique. On est quand même une place assez importante. On en parle pas mal depuis 2 ans avec de nouvelles implantations. Donc je vais la faire courte. Nous sommes le troisième port de France. Nous avons un complexe industriel sur plusieurs centaines d'hectares, voire milliers d'hectares, avec de la métallurgie, de la sidérurgie, de la chimie, de l'agroalimentaire. Nous sommes également une plateforme énergétique très importante, peut-être une des plus importantes d'Europe, avec une centrale nucléaire, un terminal méthanier, une centrale à cycle combiné gaz. Et tout ça va être complété avant la fin de la décennie par une ferme d'éoliennes en mer. Et avant la fin de la décennie prochaine, on aura 2 EPR qui vont se coupler ou s'ajouter aux 6 réacteurs, aux 6 tranches que nous avons sur Gravelines. Donc, à savoir qu'il y a à peu près 10% du parc nucléaire français qui est actuellement sur notre territoire. Donc, la communauté urbaine, plus le territoire voisin, ça fait à peu près un ensemble pour 280 000 habitants. Quand on parle d'écologie industrielle, on évoque souvent une agglomération au Danemark qui s'appelle Kalundborg, comme pionnier ou pionnière en matière d'écosystème industriel. Et le modèle dunkerquois, malgré tout, n'est pas en reste. Alors, ce qui se passe, je pense que l'exemple de Kalundborg, peut-être un peu plus récent que celui, ou un peu plus ancien, pardon, que celui de Dunkerque, mais surtout
Je pense qu'il y a eu plus de communication à l'international, peut-être plus de littérature également à l'international. Vous voyez, en fait, les photos, c'est des environnements qui sont quand même très proches. À gauche, vous avez une vision aérienne du port de Kalundborg. Et à droite, vous avez une vision aérienne du port de Dunkerque, du port ouest de Dunkerque. On voit qu'il y a beaucoup de similitudes et on voit qu'un environnement portuaire peut être propice à de l'écologie industrielle. Donc je vais un peu détailler ce qui fait l'exception sur notre territoire avec le slide suivant. Voilà, donc depuis les années 60, on est un exemple d'écologie industrielle. Avec très rapidement, dès 1969, on a commencé à valoriser les gaz de process des hauts fourneaux et la coquerie pour alimenter une centrale électrique thermique. On a également mis en place dans les années 80 un réseau de chaleur pour valoriser la chaleur fatale. Ça équipe à peu près 16 000 logements. J'en passe et des meilleurs. Un autre exemple aussi qui est parfois un petit peu, comment dire, plus au gros nu, c'est une ferme aquacole couplée ou en proximité de la centrale nucléaire de Gravelines. Bref, vous voyez beaucoup, beaucoup d'exemples ces dernières années. Et je pense qu'il y a un slide, le slide suivant permet d'illustrer un peu mieux. Donc voilà, vous avez une vue de ce que ça peut être. Hein. Donc vous avez un complexe sidérurgique, Boraquet. Et on va utiliser les eaux chaudes, la vapeur, la chaleur fatale pour alimenter un réseau de chaleur. Donc, on transporte ça par une conduite jusqu'à un centre de répartition. Donc, c'est Dalkia qui opère le réseau de chaleur sur le Dunkerquois. Vous voyez également, on parle de production d'électricité. Donc, c'est un site qui s'appelle DK6, qui est opéré par Engie. Et qui valorise des gaz de haut fourneau qu'on mélange avec du gaz nat. Et donc, on produit de l'électricité qui, par ailleurs, alimente le site d'ArcelorMittal. Donc, c'est une boucle même qui se referme parfois. Et puis, une troisième boucle qui est illustrée, c'est la valorisation de ce qu'on appelle le laitier de haut fourneau. Alors, c'est une matière minérale hein, qui est un déchet de la fonte sidérurgique. C'est une gangue stérile du minerai de fer avec des cendres du coke. Et donc, ça peut être un coproduit qui peut être valorisé, notamment pour fabriquer du ciment. Donc, on appelle ça du ciment vert, parce qu'on va dire que le bilan carbone a été fait en amont. Donc là, on a un résidu qui est broyé et qui peut servir pour la construction. De l'autre côté, vous avez une photo plus petite avec les 6 tranches de la centrale nucléaire de Gravelines. Et vous voyez, c'est marqué ferme aquacole. Donc, c'est un petit commentaire pour justement bien visualiser où est la ferme aquacole. Donc, typiquement, là, ce qui est utilisé, c'est l'eau chaude du système secondaire hein, de refroidissement de la centrale, pas le système primaire, bien sûr. Donc c'est le système secondaire, donc on a une eau avec des calories qui peuvent être valorisées. Et donc depuis près de 30 ans, la ferme aquacole utilise cette eau pour développer la gestation d'alevins et puis également mettre à maturité du bar et de la dorade d'élevage. Depuis ces dernières années, on a une deuxième couche avec énormément de projets. Avec une filière énergétique qui se renforce, avec également de l'écologie industrielle. On a également des sujets de décarbonation où ça ouvre aussi de nouveaux potentiels pour de la valorisation de CO2, du recyclage d'acier pour réduire également le minerai de fer et réduire l'empreinte carbone. On parle également de nouveaux réseaux de chaleur. Pour alimenter des industriels, notamment des acteurs de la batterie. Une gigafactory utilise beaucoup d'énergie et donc il peut avoir un intérêt à utiliser de la chaleur fatale d'un industriel pour alimenter une usine qui produit des batteries. Et on a également des industriels comme ArcelorMittal, qui travaillent sur des déchets qu'ils n'ont pas pu traiter pendant des années. On a notamment le cas de boue sidérurgique. Alors le procédé peut générer des boues qui sont assez compliquées. Là, il y avait un stock assez important de 200 000 tonnes. Et finalement, il y a un intérêt aujourd'hui pour ArcelorMittal de valoriser ce stock qui a été constitué depuis plusieurs années, voire décennies. Et donc, ils vont en extraire notamment du minerai de fer qui pourra être utilisé dans le processus. Donc voilà, on a aujourd'hui sur le Dunkerquois beaucoup d'investissements, entre 25 et 30 milliards d'euros d'investissements. Pas tous fléchés autour de l'écologie industrielle, mais quand même, à chaque fois, il y a des symbioses, à chaque fois, il y a des projets de valorisation. Et tout ça se matérialise un petit peu par cette carte. Vous voyez que sur un secteur géographique de pas loin de 15 km, eh bien, vous retrouvez des mutualisations, des échanges de fluides, d'énergie, de matière. Donc, ce n'est pas nouveau chez nous, mais ça se renforce dans le contexte industriel et de réindustrialisation notamment. Après les exemples, on va parler un petit peu de l'organisation de cette démarche, hein, de la dynamique autour de l'écologie industrielle. Il y a forcément une action qui est menée par les entreprises, mais les acteurs publics ne sont pas en reste. Aujourd'hui, l'ADEME intervient sur tous les projets en ingénierie, en financement. Ce sera peut-être un point qui sera développé plus tard par un autre intervenant. Sinon, au niveau de l'association, il y a une association qui s'est créée, vous voyez, en 2001. C'est quand même assez ancien maintenant. À l'origine, il y avait 17 entreprises et les collectivités du secteur. Aujourd'hui, on est plus de 100 adhérents. Donc, cette association s'appelle Ecopal. Elle est citée souvent comme une référence autour de l'écologie industrielle en France. Donc, Ecopal, vous voyez, un acronyme, économie et écologie, partenaire dans l'action locale. Donc, tout est dit dans cet acronyme. Je dirais qu'on ne dirait pas mieux aujourd'hui. Et donc, tout ça date de 2001. Voilà un certain nombre de projets un peu plus récents qui remettent du carburant dans le moteur. L'organisation, elle est soutenue par énormément de parties prenantes. On y retrouve, vous voyez, Synapse, pour faire le lien avec la personne qui a fait la présentation avant moi. On y retrouve l'ADEME, bien évidemment. Et puis ensuite, les collectivités, des pôles de compétitivité ou d'excellence, des écoles, l'université, des collectivités, la chambre de commerce, des agences. Et différents acteurs associatifs, dont le MEDEF, hein, Côte d'Opale notamment. Ecopal, aujourd'hui, c'est plus de 100 adhérents, donc les logos parlent d'eux-mêmes. On y retrouve des grands groupes, mais aussi des PME et des associations. Ça, c'est le conseil d'administration d'Ecopal. Donc le MEDEF Côte d'Opale est impliqué. Nous sommes au bureau. Et vous voyez un petit peu les noms et également les structures qui composent ce conseil. Donc il y a vraiment de tout. Il y a aussi bien de l'entreprise, bien sûr, comme ArcelorMittal, de l'agence de développement économique ou de l'agence d'urbanisme. Vous avez aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire, du monde associatif et de la formation. Alors, les projets, parce que bien sûr, l'écologie industrielle, elle est, comment dire, chacun enfin s'organise et puis il y a des solutions qui sont aujourd'hui exploitées de manière complètement commerciale. Après, il y a des projets un peu plus, qui n'ont pas forcément encore un modèle économique, qui méritent, un intérêt ou du moins d'être travaillés par une association comme Ecopal. Donc, on lance notamment un appel à projet local pour la valorisation de coproduits, un petit peu pour combler tous les petits trous qu'on peut avoir dans une raquette. Il y a toujours des coproduits un peu difficiles et qui ne sont pas encore valorisés, mais avec soit les niveaux de prix, soit un certain nombre de personnes qui s'intéressent à porter à connaissance de tous ces gisements, ben on peut trouver des solutions et donc ça mérite de faire un petit peu la publicité. Deuxième exemple, c'est autour de la valorisation des équipements de protection individuelle, les casques, les chaussures de sécurité, les bleus de travail, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas un marché en soi qui intéresse beaucoup d'industriels. Mais pour autant, Ecopal, en fait, commence à faire la publicité de tout ça, à essayer de mesurer le gisement local qu'on peut avoir et puis essayer de trouver des propositions, enfin, travailler à la structuration de filières potentielles. Donc ça commence comme ça. Il faut bien tracer la voie. Et puis ensuite, dès que ça devient un marché, eh bien, c'est exploité par des entreprises qui en feront leur business. Je termine avec simplement une synthèse par rapport à l'action du MEDEF Côte d'Opale, puisque en fait c'est pas forcément évident qu'une organisation territoriale s'implique autant. Bon, c'est vrai qu'on avait un terreau quand même plutôt fertile, hein, avec notamment un tissu industriel, beaucoup de symbioses développées déjà depuis les années 60, et on va dire que depuis les années 90. Les sujets environnementaux sont montés en puissance, avec notamment la prise de conscience par rapport à l'impact, par rapport à l'impact des entreprises, l'impact sur la qualité de l'air, l'impact sur les rejets dans l'environnement. Et donc, dès les années 90, on s'est intégré dans l'écosystème autour des sujets liés à l'environnement à travers le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles Côte d'Opale. Et puis ensuite, l'arrivée ATMO, hein, qui est l'organisme de référence pour mesurer la qualité de l'air, et d'autres structures, donc je vais passer assez vite. On a rejoint Ecopal que récemment, depuis 2019. Forcément, on est très content d'avoir ajouté cette brique un petit peu aux différents dispositifs qu'on suivait. Et puis, ça passe également par un vrai partenariat pour animer nos adhérents et pour créer de nouveaux services, avec notamment une montée en puissance aussi sur les sujets juridiques liés à l'environnement. Donc on monte en puissance là-dessus avec un juriste qui est en formation de notre équipe pour accompagner nos adhérents sur les sujets liés au droit de l'environnement. Voilà, moi j'en ai terminé pour l'illustration par rapport à l'exemple d'Inkerquois. Et je suis à votre disposition pour des questions éventuelles.
Merci beaucoup Franck pour cette présentation. On va essayer de retrouver nos autres participants, notamment Madame Bortolotti. Je ne sais pas si elle peut dorénavant ouvrir son micro, ou Monsieur Notia. Je ne sais pas si lui-même peut ouvrir son micro.
Oui, si vous m'entendez.
Monsieur Notia, on vous a trouvé.
Voilà.
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez
Madame
également?
Madame Bortolotti aussi, parfait, aussi, formidable. Magnifique. Bon. Alors écoutez, on prend dans le bon sens. On va laisser peut-être la parole à Madame Bortolotti pour l'exemple vosgien. Voilà.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous.
Super.
Désolée pour ces quelques petits soucis techniques. Donc Martine Bortolotti, je suis responsable qualité environnement et développement durable au sein de la papeterie Nordkeslo-Golbey, située dans les Vosges. Et donc je vais vous parler de notre démarche d'écologie industrielle territoriale. Juste pour commencer, planter un petit peu le décor, quelques mots pour nous présenter rapidement, quelques chiffres clés. Donc, Nordkeslo-Golbey, nous sommes la business unit du groupe norvégien, du groupe papetier norvégien. Donc, on est l'unité française, la seule en France. Quelques chiffres clés, comme vous pouvez voir à l'écran, notre site se situe sur 70 hectares, donc situé tout près d'Épinal dans les Vosges. Nous vendons 100% de notre production en Europe. Nous sommes un peu moins de 400, à peu près 380, plus une trentaine d'alternants actuellement. Et nous produisons, c'est notre cœur de métier historique, environ 300 000 tonnes de papier journal actuellement sur une seule ligne, en 100% recyclé désormais. Donc, juste pour vous faire une idée, c'est un peu plus que la consommation française actuelle. Et nous avons décidé d'investir un peu plus de 300 millions d'euros d'investissement pour diversifier une partie de notre activité, c'est-à-dire la deuxième ligne, qui va pouvoir produire à partir de début d'année prochaine du papier pour carton à hauteur de 550 000 tonnes, toujours en recyclé 100%, ce qui fera qu'on sera à l'horizon de l'année prochaine un des tout premiers acteurs dans l'économie circulaire et le recyclage pour le domaine du papier carton, voilà, avec plus d'un million de tonnes de papier et carton recyclés par an. Voilà, maintenant pour vous parler un petit peu de notre démarche d'écologie industrielle territoriale, c'est un projet qui a démarré dans les années 2008-2010 avec un cluster d'entreprises qu'on a appelé Green Valley, qui a été à l'époque labellisé par la DATAR en 2009 ou 2010, qui consistait à mutualiser un certain nombre de moyens et d'actifs de manière à, de notre côté, générer des revenus complémentaires et diversifier un petit peu nos activités. Donc, en termes de mutualisation, on parle d'utilisation de l'approvisionnement pour les matières premières. Donc, ça peut être le bois ou les papiers récupérés à l'époque. Mutualiser les utilités comme la vapeur ou l'électricité. Des infrastructures, bien sûr, dont notre station d'épuration, notamment pour les effluents. Et puis, des moyens logistiques. Donc, la première expérience qui s'est traduite sur notre site, c'est l'implantation d'une petite entreprise qui fabriquait de la ouate de cellulose, qui s'est installée dans nos locaux, à qui on fournissait les utilités et et les matières premières, donc les papiers récupérés, mais qui n'a pas perduré. Et la deuxième expérience qui s'est traduite en 2014 par une récompense au niveau du Salon Polytech, c'était la slide précédente, une remise de prix par Ségolène Royal à l'époque, qui était la ministre de l'Environnement pour cette démarche avec Pavatex, donc dans la catégorie économie circulaire, pour du coup cette démarche avec l'industriel Pavatex qui s'est installé à nos côtés en 2013, qu'on a tiré en fait à nos côtés, à qui on a cédé 10 hectares de terrain, donc on avait 80 hectares, plus de 70 à l'heure actuelle. Pavatex était un industriel suisse à l'époque, qui a été repris entre-temps par le groupe français Soprema, qui produit des panneaux isolants à base de bois. Donc en termes de mutualisation, évidemment, il y a la matière première. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on est en 100% recyclé, mais on produisait à l'époque avec un tiers de notre approvisionnement en matières premières qui était du bois, coproduit de Syrie et Rwanda éclairci. Donc on avait moyen de les fournir en matières premières. On a partagé nos infrastructures avec eux. On vous dit, il y a une dizaine d'hectares qu'on leur a cédés. On était excédentaire dans nos moyens de production de vapeur, avec notamment une vapeur produite par une chaudière biomasse, donc bois de fin de vie et nos propres bouts de déchets de production, et puis donc le traitement des effluents de l'industriel de nos côtés en retour. Donc ça s'est traduit de leur côté par une quinzaine de pourcents de gains sur leurs investissements par rapport à une installation Greenfield, la création de 50 emplois directs et bien sûr tout ce qui est au bénéfice de l'attractivité du territoire. Bénéfice également à signaler pour cette expérience-là, un bénéfice environnemental, puisque s'il s'était installé Greenfield, la production de vapeur très probablement aurait été faite au travers d'une chaudière au gaz. Voilà, pour continuer un deuxième projet avec une chaudière, c'est un projet partenarial que l'on mène avec Pearl, comme vous voyez, donc, qui est un investisseur, nous-mêmes, donc Norske Skog Ob, et Vix, donc Veolia, qui sera aussi l'opérateur de la chaudière, qui est en phase de démarrage actuellement. Donc c'est une chaudière supplémentaire qu'on a installée sur notre site. Pourquoi? Pour répondre en fait aux besoins supplémentaires de vapeur qui arrivent avec la conversion vers le papier pour carton. Donc nous-mêmes avons des besoins de vapeur en augmentation. Pavatex s'est également étendu, donc des besoins vapeur grandissants. D'où l'implantation de cette nouvelle chaudière sur notre site, au nord de notre site, avec également une turbine à vapeur de 25 MW, ce qui nous permettra d'être aussi d'augmenter notre proportion d'autoproduction sur l'ensemble du site. On était jusqu'à présent en 5-6% d'autoproduction avec notre propre turbine. Avec cette nouvelle turbine et notre baisse de consommation d'électricité, on va arriver à peu près à 30% d'autoconsommation, d'autoproduction, pardon. Donc, pour revenir à cette chaudière, elle est alimentée donc en biomasse, bois de fin de vie et nos propres boues, avec donc comme client vapeur nous-mêmes, Pavatex, une nouvelle extension de Pavatex, et puis d'autres partenaires qui arrivent, puisque c'est l'objet de la slide suivante. On a la suite de l'aventure se concrétise au travers de ce qu'on appelle un éco-parc. Cette fois-ci, on n'est plus sur notre site, parce que là, on est en manque d'espace. On est de l'autre côté de la route, donc à proximité immédiate de notre site, où la communauté d'agglomération d'Épinal a viabilisé 33 hectares de manière à pouvoir accueillir de nouveaux industriels. Donc une extension de Pavatex 3 qui est en cours de construction. Un futur projet solaire pour 50 millions d'euros d'investissement qui aura pour objectif de produire du biocarbone à partir de résidus de bois à horizon 2026. Le projet LIFS qui produira lui de l'hydrogène renouvelable à partir de 2027. Et puis enfin, le plus gros projet, on parle d'1 milliard d'euros potentiellement d'investissement, le projet Épine, donc de la société Verso Énergie, qui a pour ambition de produire du kérosène de synthèse, donc des biocarburants pour en destination de l'aviation à horizon 2030, cette fois-ci à partir de CO2 biomasse. Et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés de s'installer à nos côtés? Puisque nous, du CO2 biomasse, comme on a du bois de fin de vie comme un de nos principaux combustibles, on a du CO2 d'origine renouvelable. Donc ils sont intéressés. Et pour faire ce biocarburant, il y a aussi besoin d'hydrogène. Donc on voit et on pressent qu'autour de nous, il y a différents industriels qui vont s'installer, qui eux-mêmes vont mettre des synergies, des mutualisations entre eux en place. Donc c'est ça en fait pour nous l'écologie industrielle territoriale, ça part d'un noyau, d'une amorce on va dire, qu'on a essayé de démarrer avec nos voisins en attirant Pavatex à nos côtés. Et ensuite progressivement, les choses se font avec d'autres projets, d'autres industriels, d'autres synergies et mutualisations. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation, en effet très intéressante là sur la région vosgienne. Et donc là, on va laisser la parole à Monsieur Notia qui là va nous présenter une autre initiative qui là a pour origine plutôt la métropole bordelaise.
Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Jean-François Notias, je suis le directeur de l'écologie industrielle territoriale ZIRI au sein de l'association Bordeaux Techno-Est. Donc nous sommes une association technopole créée il y a 20 ans avec un pôle innovation qui accompagne à peu près 70-80 startups en permanence sur nos 10 incubateurs et puis un pôle développement économique avec des centres d'affaires. Et cet outil d'écologie industrielle territoriale qu'on a développé il y a 10 ans sur la zone industrielle de Blanquefort. Donc on va le voir sur le prochain slide. Le réseau, bah, c'est une petite équipe qui s'est constituée autour de cette démarche. Donc moi-même, Glenn et Clément qui sont tous les deux chargés de mission. On a aujourd'hui 110 entreprises adhérentes de la démarche. La démarche a démarré sur la zone de Blanquefort qui est au nord de Bordeaux Métropole, donc au nord de Bordeaux. On a une zone assez compacte qui fait 350 hectares et à peu près 150 entreprises. Aujourd'hui, on a 45 entreprises qui sont adhérents, engagées dans cette démarche, des grosses et des PME. On a une zone qui est assez tourné autour de la mécanique et également du vin, donc des industriels du vin, mais aussi de la logistique du vin. Et on représente avec 45 entreprises à peu près 90% des emplois sur la zone. On a depuis le lancement en 2014 déployé sur de nouvelles zones industrielles sur les villes de Mérignac-le-Hayant et puis rive droite sur Bassens et Artigues, donc qui sont plus récentes. Donc voilà, 110 entreprises engagées. Alors sur le slide suivant, qu'est-ce que c'est Ziri? Alors je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Benoît en introduction. Donc l'idée, c'est effectivement de créer des synergies entre les entreprises. Et nous-mêmes, en fait, on a pour mission de créer des synergies sur les zones d'activité. Ça va toucher l'énergie, les déchets, la végétalisation, des prestations de services et la mobilité. Donc, comment est-ce que concrètement on procède? On commence par un diagnostic qu'on a baptisé Diag Flash, qui est une visite de l'entreprise et un entretien avec le ou la dirigeante de l'entreprise. De ce Diag, on fait une recommandation à l'entreprise. On lui propose ben, d'intégrer des synergies qui sont mutualisées au sein du réseau et on lui explique comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne? Le principe, c'est déjà des animations, des rencontres, donc on appelle meeting. On en fait à peu près 5 par an qui permettent aux entreprises de se rencontrer. On a un temps autour des synergies, donc l'actualité sur les synergies. Et puis un troisième temps au cours du meeting qui sont des interventions d'intérêt pour les entreprises, donc tout ce qui va permettre d'aider l'entreprise à accélérer sa transition écologique. Deuxième temps, donc c'est la partie substitution. Donc là, je vais vous le présenter sur le slide suivant. Voilà, donc aujourd'hui, on organise 2 sessions par an d'ateliers de recherche de synergie qui génèrent aujourd'hui à peu près 300 synergies potentielles et on accompagne 50 synergies qui sont faisables et à enjeux forts à court terme. Et je vais prendre l'exemple de la glassine qui a été citée tout à l'heure par Benoît, la glassine qui est le papier support des étiquettes adhésives. Sur la zone de Blanquefort, on a une entreprise qui est le numéro 1 européen des vins qui s'appelle Castel, qui a 8 lignes d'embouteillage. Ce papier, une fois que l'étiquette est apposée sur la bouteille, bah, il partait en incinération. On a pu trouver donc un débouché à Cestas, qui est une commune au sud de Bordeaux, qui fait partie du groupe Soprema et qui en fait de la ouate de cellulose. Et donc du coup, on aide les entreprises en fait à récupérer, à trier leur glassine pour qu'elle devienne une matière première pour cette entreprise de Cestas qui s'appelle Soprema et qu'il transforme en ouate de cellulose. Elle-même, en fait, était en recherche d'un substitut au papier journal dont le tirage baisse en fait d'année en année. Donc, il cherchait une autre matière. et on les a mis en relation, donc du coup, avec nos adhérents, à commencer par Castel, ce qui représente à peu près 15 tonnes par an pour Castel, et puis des petites entreprises également qui nous déposent en point d'apport volontaire la glassine qu'ils génèrent. Donc voilà, ça c'est la partie atelier de substitution. On a une activité autour de la mutualisation. Aujourd'hui, c'est 12 mutualisations avec trois axes principaux, l'énergie, les déchets et les services. Sur l'énergie, c'est un axe assez important avec un achat groupé d'électricité verte qui croît d'année en année, qui génère à peu près 100 000 euros d'économies par an pour les entreprises. Bah, le fait de se grouper, d'acheter ensemble l'électricité et de s'être doté d'un expert en énergie, bah, fait des économies d'échelle. Et on est passé, bah, de tous, en fait, d'électricité verte, enfin en électricité verte. Donc du coup, on promeut l'énergie renouvelable sur nos différents sites. On a un achat groupé de gaz et un partenariat également avec Enedis Regaz. Et puis après, la collecte de déchets. Donc on a trois collectes aujourd'hui qui représentent plus de 660 tonnes qui permettent d'orienter les déchets recyclables vers des filières adaptées et de sortir de l'incinération, des bennes d'incinération, tout ce qui est possible de recycler. On a deux points d'apport volontaire sur les D3E et la glassine. Et puis après, sur la partie service, pour éviter tous les déplacements de prestataires sur les zones, on est passé par exemple de 10 prestataires de nettoyage de locaux à un prestataire mutualisé sur la zone de Blanquefort. Donc on évite des déplacements, on sédentarise les employés de ménage. Bon, ce sont quelques exemples. On pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Et le troisième élément, c'est de la mise en relation avec des apporteurs de solutions innovants, des solutions green tech, donc qui permettent aux entreprises de réduire leur impact. Là, j'ai pris un exemple sur les déchets. Ce sont des startups ou des apporteurs de solutions type PME qui, les uns vont permettre de récupérer les plastiques, d'autres le carton ou encore les biodéchets. Voilà je dirais notre animation. Donc une fois ce diag fait, on intègre l'entreprise au sein des meetings, recherche de synergie, de substitution, intégration dans des mutualisations, donc du coup qui créent des économies et aussi de la réduction d'impact. Et le quatrième point, c'est de la mise en relation avec des startups innovantes pour des solutions green tech. Donc voilà, je suis peut-être arrivé au bout des 10 minutes, mais à votre disposition pour répondre aux questions.
C'est parfait. Merci beaucoup, monsieur Notia. On va laisser tout de suite la parole peut-être à Benoît de nouveau, parce que là, on a eu trois exemples différents donc, de démarches d'écologie industrielle territoriale. Voilà, l'idée, c'était aussi, derrière, de façon plus générale, de nous présenter, Benoît, la manière de déployer, les solutions de l'IT. Je ne sais pas si Benoît, tu es toujours là, tu nous entends?
Je suis toujours là, je vous vois, je
Super.
vous entends.
Eh bien, écoute, la parole est de nouveau à toi pour,
Allez,
voilà.
rebonjour à tous et à toutes. Alors, on va passer sur la diapo suivante pour vous donner déjà le cadre de Synapse. J'ai évoqué ce réseau tout à l'heure sans en donner de détails. D'abord, c'est une ressource pour vous, hein. On est dans le comment déployer le IT sur un territoire. Ben, vous disposez déjà d'une quantité de ressources assez importante qui est centralisée sur une plateforme numérique et animée par le réseau Synapse. Donc, le réseau Synapse, c'est un réseau qui est à l'initiative de l'ADEME, qui est chapeauté par l'ADEME à la direction de l'industrie et qui missionne une équipe d'animateurs depuis 2017 maintenant donc on est, alors j'en fais partie avec d'autres partenaires, on est deux animateurs principaux, co-animateurs nationaux, et ensuite on s'appuie sur des partenaires en région pour mener un certain nombre de tâches et d'animations. La première, c'est évidemment mobiliser le réseau, l'alimenter en différents types de connaissances, de production de documents, de références, des fiches méthodologiques, par exemple. On alimente une plateforme web dédiée Donc c'est affiché sur la diapositive et normalement le lien est actif. Donc c'est www.réseau-synapse.org. Et là, donc vous arrivez sur cette plateforme, vous pouvez vous rejoindre la communauté des acteurs et recevoir de l'information sur l'actualité du réseau ou rejoindre une communauté particulière, en créer une sur votre propre territoire. C'est plus de 1 000 membres qui sont rassemblés autour de ce réseau et inscrits sur la plateforme. Évidemment, c'est essentiellement du partage d'expérience, mais il y a aussi un accompagnement opérationnel des acteurs de terrain par le réseau Synapse à travers de l'accompagnement juridique. On a une juriste spécialisée, une avocate spécialisée en économie circulaire et plus particulièrement en écologie industrielle et territoriale qui est à disposition sur des manifestations d'intérêt sur tel ou tel projet par des membres qu'ils peuvent solliciter et mobiliser pour un accompagnement juridique spécifique. On anime des webinaires, un peu comme vous le faites aujourd'hui au MEDEF. On écrit des notes techniques, des notes de veille sur des sujets très particuliers. Donc, c'est des documents qui sont assez fournis, qui peuvent faire 10, 20 pages, qui demandent beaucoup de travail en amont d'analyse, de recherche de données, mais qui explorent et approfondissent des sujets très spécifiques. Et puis, depuis cette année, c'est des formations, à la fois pour des animateurs qui seraient en démarrage de démarche, pour plutôt des débutants, et puis pour des animateurs un peu plus confirmés, une autre formation a été créée pour les accompagner, notamment dans l'évaluation et la pérennité de leur démarche d'écologie industrielle. Un autre mot sur la diapo suivante, sur le réseau Synapse. Retenez que c'est d'abord un réseau de réseaux régionaux dans toutes les régions, historiquement en Grand Est, en Nouvelle-Aquitaine, ensuite en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie. Il y a eu un réseau régional qui s'est développé et qui structure une animation avec l'ensemble des porteurs d'actions, de démarches, de projets d'écologie industrielle et territoriale. C'est important parce que ça permet de l'émulation et de l'échange d'expériences à une échelle plus à taille humaine. Alors, il y a des grandes régions, évidemment, certaines plus grandes que d'autres, mais on arrive quand même à mobiliser les acteurs. Là, moi, j'anime en ce moment, par exemple, le réseau Occitanie. 2 fois par an, on les réunit. Ils sont 30-40. Ils sont très friands de pouvoir se mobiliser, partager de l'expérience dans des moments privilégiés, un peu conviviaux, et qui sont accueillis sur différents endroits du territoire. Donc, vous avez certainement un réseau régional sur votre territoire. Il est un peu en dormance en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est pas encore existant au centre-Val de Loire. Il est un peu en prémisse. Pareil en Bretagne, il aurait pu être en Vercler. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, mais j'ai croisé les responsables de l'ADEME régionale en Bretagne récemment qui ont envie, avec la région, de lancer quelque chose. Dans les territoires ultramarins également, ne les oublions pas, c'est très actif. Que ce soit en Martinique, à La Réunion ou en Guadeloupe, également en Guyane, il y a des choses qui existent. Donc, n'hésitez pas sinon à me solliciter pour avoir un contact en région. Mais sinon, les chargés de mission économie circulaire en région ou des RADEM vous répondront. Là, je voulais vous parler de la fonction d'animation d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Ce qui devait s'afficher est une image assez simple d'un acteur au centre d'un réseau. C'est simplement pour illustrer que il faut nécessairement, la plupart du temps, une force organisatrice pour mobiliser les entreprises et l'ensemble des acteurs sur un territoire que l'on peut qualifier d'opérateurs de flux. Les entreprises sont évidemment la cible. Et aujourd'hui, voilà, on est dans le cadre d'un webinaire du MEDEF, donc les entreprises sont privilégiées, mais tous les acteurs, même une collectivité, est concerné comme acteur opérationnel dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale parce que tous les acteurs d'un territoire sont opérateurs de flux de matière, d'eau, d'énergie. Une collectivité l'est par ses activités d'entretien de voirie, de gestion de parcs de véhicules ou de bâtiments à travers les stations d'épuration qu'elle peut gérer également. Donc, tout ça sont des équipements, des infrastructures qui permettent. Qui sont traversés par des flux, les déchetteries également, évidemment, et qui viennent en écho avec ce qui entre et qui sort des entreprises. Alors, vous avez vu dans les exemples précédents qu'il y a, vous avez vu le cas d'un industriel qui identifie des opportunités d'investissement avec ses propres voisins de manière un peu spontanée. C'est plutôt rare dans le paysage de l'EIT, alors EIT pour écologie industrielle et territoriale en France. La plupart du temps, ça se fait à partir d'un acteur interface que l'on nous appelle acteur tiers dans notre jargon et qui est en charge de l'animation et de l'identification des synergies, comme vient de vous le présenter Jean-François chez Ziri ou chez Ecopal, qui sont des associations qui vont regrouper à la fois des acteurs publics et des acteurs privés dans le déploiement de l'écologie industrielle et territoriale sur un territoire. Alors cet acteur, il a plusieurs fonctions. Il fait évidemment de l'animation et de la détection de synergies. Je vais vous donner quelques exemples sur la diapo suivante en termes de méthodologie. Il fait surtout de la facilitation et de l'appui à la structuration de synergies. Il peut aussi également faire du portage administratif ou opérationnel de synergies à des acteurs associatifs qui se positionnent, par exemple, dans la massification de déchets, qui ont investi dans des bâtiments, des véhicules de transport spécifiques, et qui vont faire de la collecte, de la massification de déchets, et en font un business pour ensuite les renvoyer ces flux dans les filières ad hoc. Mais ça peut être d'autres activités autour, je sais pas, de recyclage de cartouches d'encre ou de services à l'achat mutualisé d'énergie, où voilà, l'acteur tiers est à l'interface et se rémunère sur les économies réalisées. Donc là, il y a tout un système comme ça de modèles économiques en émergence autour des acteurs tiers. Je vais y revenir plus tard. Sur la diapo suivante, je vais vous donner, on va dire, les outils et les méthodes principales qui permettent la détection et l'accompagnement de synergies pour que vous puissiez comprendre quel est le travail à réaliser à l'échelle d'un territoire. Quatre grandes familles, des outils, des rencontres directes avec les acteurs, et puis le réseau d'acteurs que nous entretenons chacun sur nos territoires. On va parler du point de vue de la cellule d'animation qui, à travers les premiers outils, que sont le diagnostic territorial, qui est orienté écologie industrielle et territoriale, et le bilan de flux, à pouvoir identifier des synergies. Alors, le diagnostic territorial, c'est un diagnostic assez classique, mais qui est orienté enjeux ressources auprès d'acteurs auprès de qui on va faire des entretiens spécifiques avec une méthode particulière, mais c'est des personnalités clés, qu'elles soient élues, chefs d'entreprise, têtes de réseau, des gens qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien les acteurs, qui connaissent bien les enjeux ressources, les fragilités en termes d'écosystème ou d'accès à certaines ressources. Et puis les bilans de flux de ressources vont être issus de visites en entreprise, un peu comme le fait Jean-François avec le Diag Flash dont il vous a parlé tout à l'heure. On visite, on interroge nos interlocuteurs en entreprise ou chez d'autres acteurs, et puis on identifie, on essaie de quantifier ce qui rentre, ce qui sort, d'où ça vient, où ça va, et à partir de là, de poser des questions. Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui vous paraît être une charge trop importante en termes d'économie, en termes économiques? Quelles sont les difficultés d'approvisionnement que vous pouvez avoir sur telle ou telle matière, etc., etc. Et les problématiques sont prises en charge par l'animateur et traduites en solutions collectives, en interrogeant le réseau, en faisant des rencontres spécifiques qui vont permettre de détecter des synergies. Donc, sur les rencontres directes avec les acteurs, on a les entretiens individuels, où là, on va dérouler un entretien spécifique autour de l'EIT avec un dirigeant, avec un responsable de production, avec un responsable communication ou sécurité environnement, ou un élu, un technicien dans une collectivité. Et puis, on va dire de manière assez récurrente maintenant, le cœur des outils méthodologiques dans les démarches d'EIT, ce sont les ateliers dits de détection de synergie. On va rassembler 15, 20, 30, voire plus, 40, 50, on l'a déjà fait aussi, entreprises, le temps d'une demi-journée. Et on va les faire travailler selon une méthode très spécifique de fiches tournantes sur leurs ressources. Alors, c'est soit elles ont besoin de certaines ressources, elles sont en recherche de ressources, soit elles les possèdent et elles les mettent à disposition, elles les mettent au pot commun sur le territoire et elles recherchent des utilisateurs. Et ces fiches vont être remplies, vont circuler auprès de tous les acteurs où chacun va pouvoir dire bah, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas de manière directe. Et ensuite, l'animateur va accompagner les entreprises qui se sont exprimées par groupe de 2, 3, 4, parfois un peu plus, sur la concrétisation des synergies, des pistes de synergie identifiées. Dernière, on va dire, famille d'outils, c'est le réseau d'acteurs. Nous avons, nous, on va dire, accompagnateurs des démarches de IT en France, une difficulté récurrente qui est la mobilisation des entreprises, surtout les PME qui ont généralement le nez dans le guidon dans leur activité, qui n'ont pas trop le temps de regarder sur le côté. Et donc, aller les chercher, les mobiliser, demande des arguments, une méthode un peu particulière, et puis surtout les capter pour que ce soit intéressant pour eux. Et le réseau des développeurs économiques aide beaucoup dans ce cas-là. Et on le verra, nous, on l'espère aussi avec vous, MEDEF territoriaux, pour aider à la mobilisation de vos adhérents. Et puis enfin, c'est les échanges informels, c'est comme dans n'importe quel, on va dire, club ou structure ou réseau. Les échanges informels sont très importants parce qu'on ne se dit pas les mêmes choses autour d'un café ou d'un verre après une journée de travail ou au petit déjeuner que dans des réunions formelles où on est assis autour d'une table. Voilà, ça c'est très classique et vous en avez l'habitude. Un avant-dernier mot sur, on va dire, ce qui constitue la structuration d'une démarche de IT. Alors, vous êtes sur un territoire, je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais n'importe quel territoire, profil de territoire, est propice au déploiement d'une démarche de IT. On a vu des exemples plutôt à caractère, voilà, plateforme industrielle ou portuaire avec Dunkerque et plateforme industrielle avec Golbey, et puis zone avec des startups et des PME avec Ziri. On peut développer aussi des démarches de IT sur des territoires à caractère plus rural, sur des intercommunalités un peu larges, des métropoles, sur des territoires urbains denses. Si on a dans Paris, intramuros, voilà, tous les territoires sont propices au développement d'une démarche de IT. Il faut s'adapter et les ressources sont là et les entreprises sont généralement d'accord pour y participer. Ensuite, il faut organiser l'animation de cette démarche parce que c'est un temps long. Généralement, on réfléchit pendant, je vous donne des grands pas de temps, mais on a une phase de réflexion d'une année, on a une phase de lancement et de structuration pendant 3 ans. Ensuite, on a encore une phase de 3 à 4 ans qui va être de la consolidation avant d'arriver à une forme de pérennisation. Les démarches et les acteurs changent de comportement, prennent des initiatives de manière spontanée. On le voit bien sûr avec Ecopal, c'est la démarche la plus ancienne de France. Elle a été lancée dès le début des années 2000. En 2001, elle a été créée et s'est développée au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, c'est une affaire qui roule, qui est reconnue par l'ensemble des acteurs du Dunkerquois. Mais quand on est ailleurs, sur un autre territoire où il y a une culture de la coopération très peu développée, bah, il faut savoir la créer et amener le sujet d'une gouvernance publique-privée entre des entreprises, les partenaires institutionnels, les collectivités locales, qui vont permettre cette pérennité organisationnelle pour assurer un financement équilibré, généralement 50-50 entre l'argent public et l'argent privé. L'argent privé venant de cotisations, de services commerciaux offerts par l'acteur tiers. Donc là, on est sur le modèle économique et la pérennité financière de ces démarches. Et enfin, bah, c'est bien l'activité au quotidien et les résultats que va obtenir l'acteur tiers, comme ce que vous a présenté en termes de résultats, Jean-François. Vous voyez bien que avec la démarche d'IRI, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées, des économies de coûts, des investissements qui sont réalisés, parfois des créations d'emplois également. Et c'est cette pérennité opérationnelle qui va permettre à une démarche de se déployer sur le temps long, garder un pas de temps entre 5 et 10 ans pour faire quelque chose de sérieux à partir du moment où on part depuis la page blanche. Beaucoup de choses se font dans les premières années et sont assez, on va dire, cruciales en termes de méthodologie. Les dernières diapositives, c'était pour voilà, vous interpeller un petit peu sur les rôles potentiels des MEDEF territoriaux. C'est des suggestions auxquelles nous on a pensé parce qu'elles seraient utiles dans le réseau national, dans les démarches de territoire, dans les réseaux régionaux également. Vous pourriez par exemple identifier des démarches existantes dans votre région et vous rapprocher de leurs animateurs. Les contacts sont sur la carte interactive auxquelles vous pouvez avoir accès, mais aussi à travers nous. Vous pouvez me solliciter et je vous répondrai volontiers. Peut-être de sensibiliser, de faciliter la mobilisation de vos adhérents à l'EIT, au sujet un peu global de l'économie circulaire. Vous pouvez aussi prendre l'initiative d'impulser des nouvelles démarches, de dire, bah voilà, nous, l'EIT, on a compris ce que c'était, ça nous intéresse, on voit le potentiel pour nos entreprises, On comprend que ça peut venir densifier les réseaux et leur apporter des nouvelles opportunités d'affaires, faire des économies d'échelle. Évidemment, derrière, l'objectif ultime, faire des économies de ressources, diminuer les impacts sur les écosystèmes. Et de là, vous rapprochez des bons acteurs institutionnels et opérationnels autour de vous. Vous pouvez même porter vous-même une démarche si vous en avez les capacités. L'ADEME peut aider aussi et les régions. Il peut y avoir dans certaines régions des soutiens financiers. Et puis, vous pouvez identifier des opportunités d'affaires dans une logique d'économie circulaire à travers les réunions, déjà vos activités existantes, repartir de ce que vous faites pour densifier cette coopération sur les principes de l'EIT. Voilà, moi j'en ai terminé. Merci beaucoup de votre écoute. Les autres actions, ces points d'interrogation, là, quelque part, c'est un peu vous qui pouvez nous les donner. Si vous avez des idées à chaud, on sera un plaisir de les explorer avec vous.
Merci beaucoup Benoît, merci à tous les intervenants. C'est vrai que voilà, on a un petit peu dépassé le temps à cause des petits soucis techniques que nous avons eus, mais voilà, on va essayer de remettre tout en forme pour le podcast. On va pas forcément rallonger le webinaire avec des questions. Juste voilà, on avait envie aujourd'hui de vous présenter un petit peu ces solutions d'écologie industrielle territoriale, parce que c'est vrai qu'en tant que tête de réseau à la fois nationale sur notamment les questions de transition écologique, et puis également territoriale avec nos collègues dans les MEDEF régionaux, et puis on sait que beaucoup de fédérations professionnelles adhérentes du MEDEF ont également des bureaux dans les différents territoires. Voilà, il nous semblait intéressant de pouvoir montrer à la fois l'étendue des possibilités offertes par les solutions d'écologie industrielle territoriale, et de constater que ce n'est pas que des flux sur papier, que ce sont des vrais flux qui s'échangent au quotidien, hein, entre les entreprises, entre les acteurs d'un territoire, parce que c'est pas que entre les entreprises, ça peut parfois être, comme l'a dit Benoît, entre une entreprise et une collectivité territoriale, parce que voilà. Donc ça nous paraissait extrêmement intéressant de souligner que ces solutions sont aussi porteuses d'attractivité économique. C'est vraiment l'exemple type, hein, c'est celui présenté par à la fois Franck Elias sur le MEDEF Côte d'Opale, et puis également donc de nos collègues qui sont du côté d'Épinal. Voilà, qui vraiment ont pu montrer, certes sur du temps long, mais finalement, n'est-ce pas aussi le sens du développement économique de travailler sur le temps long, que voilà, ce sont des solutions qui sont possibles. Et puis, voilà, pour lancer ces initiatives, si vous êtes davantage intéressé, je pense que le mieux, c'est de contacter Benoît, hein, et puis le réseau Synapse, c'est vraiment la porte d'entrée de beaucoup d'initiatives, et c'est pour ça qu'on les a fait venir. Benoît l'a dit, les ADEME dans vos différents territoires sont là aussi des portes d'entrée importantes. Donc voilà. Et puis de la même façon, les conseils régionaux peuvent aussi être des sources importantes d'ouverture de ces initiatives. Donc encore une fois, un grand merci aux différents intervenants. N'hésitez pas à les contacter. Il y a Benoît qui vient de remettre ses coordonnées dans le chat. Donc n'hésitez pas à les contacter les uns les autres. Je pense notamment aux entreprises qui sont sur la Côte d'Opale. N'hésitez pas à contacter Copal, pour la Gironde, le Ziri, et puis pour Épinal, la Green Valley. Donc voilà, bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, au MEDEF national, que ce soit moi ou donc notre collègue Hugo Jublan, qui est aussi en charge de l'animation des territoires en matière de transition écologique. On a tous les carnets d'adresses qu'il vous faut pour lancer des initiatives. Voilà, on était très heureux de partager ce moment-là avec vous. On vous enverra dans quelques jours, une fois qu'on aura remis en place toutes les présentations, donc le podcast. Et puis, n'hésitez pas à diffuser tout ça dans vos réseaux, dans vos entreprises. Et on espère que ce webinaire donnera naissance à beaucoup d'initiatives. Voilà. Un grand merci à vous, et puis à très bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Vous avez des questions liées à cet enregistrement? Rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr.